Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges ?
« Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 3 mars 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Que s'est-il passé dans les pourparlers entre l'Iran et l'Ukraine à Oman? Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, inauguration de la phase 14 de la raffinerie par Sud par le président iranien Ibrahim Raisi. Émeutes en Iran, les États de l'Union européenne ont fait de mauvais calculs, déclaration du chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian. Et puis Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, est en visite en Iran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Lors de l'inauguration du jeudi 2 mars de la phase 14 de la raffinerie par Sud, le président iranien a réaffirmé que les ennemis ne pouvaient pas arrêter les progrès de l'Iran. Le président iranien Ibrahim Raisi a déclaré que les ennemis n'étaient en mesure d'enrayer les progrès économiques et la production du pays, alors qu'il inaugurait officiellement la phase 14 du champ gazier géant de Parsud. Ce projet de la phase 14 du champ gazier de Parsud a été entièrement conçu, construit et mis en exploitation par des experts iraniens, malgré les sanctions unilatérales imposées par l'Occident. La phase 14 produira quotidiennement 50 millions de mètres cubes de gaz non corrosif, 400 tonnes de soufre et 75 000 barils de condensat de gaz. La nouvelle phase du champ gazier de Parsud devrait également produire 1 million de tonnes d'éthane et 1 million de tonnes de gaz de pétrole liquéfié par an comme matière première pétrochimique. Empoisonnement d'écolières en Iran, ordre spécial du président Raisi au ministre de l'Intérieur et du Renseignement. Le président de la République islamique d'Iran, Ibrahim Raisi, a déclaré que les ennemis tentaient de créer une atmosphère d'insécurité et de panique dans les écoles iraniennes et que les ordres spéciaux avaient été donnés au ministre de l'Intérieur et des Renseignements pour identifier et traiter les éléments impliqués dans cette affaire. Selon l'IRNA, le président iranien Seyed Ebrahim Raisi a déclaré dans un discours prononcé dans la province de Boucher, au sud de l'Iran, « L'ennemi tente de semer le chaos dans le pays en provoquant l'insécurité dans diverses régions du pays. Un plan qui a jusqu'à présent été déjoué grâce à la présence et à l'opposition du peuple. » Le président poursuit « créer des émeutes dans les rues et sommer des problèmes financiers et monétaires et l'insécurité dans le domaine de l'éducation et des écoles est l'une des facettes des machinations et de la conspiration de l'ennemi pour tuer l'espoir au sein du peuple iranien. Dans une autre partie de son discours, Ebrahim Raïssi a déclaré « Il y a eu de nombreuses sanctions et menaces contre notre pays, menées par les ennemis. Mais, de leur propre aveu, ces pressions maximales ont échoué avec la présence et l'unité de la nation musulmane d'Iran. » Évoquant les progrès réalisés par le pays, il a conclu « La présence de la nation iranienne sur la scène a rendu l'ennemi vaincu et en colère. C'est pourquoi ils essaient d'arrêter les progrès du pays avec une guerre combinée et cognitive. » Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré qu'un certain nombre de gouvernements européens avaient fait de graves erreurs de calcul concernant les récentes émeutes en Iran et qu'ils s'étaient malheureusement basés sur des rapports erronés et trompeurs rédigés par le groupe terroriste de l'organisation des Moudjahidine Khalq ou l'OMK, un groupuscule terroriste. Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'une conversation téléphonique avec son homologue espagnol, José Manuel Álvarez. Le haut diplomate iranien a dénoncé les groupes terroristes et toutes les réunions organisées de part et d'autre qui ont exploité ces troubles. Certains gouvernements européens ont malheureusement fait de mauvais calculs sous l'emprise de faux rapports de groupes terroristes, OMK, a-t-il affirmé. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également remercié à cette occasion le roi Philippe VI d'Espagne qui a adressé ses salutations au président iranien Ebrahim Raïssi à l'occasion du 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. Raphaël Grossi est en visite à Téhéran, selon le journaliste politique d'IRNA. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivé à l'aéroport Mehrabad de Téhéran ce vendredi. Il a été officiellement accueilli par Behrouz Kamalvandi, porte-parole et adjoint pour les affaires internationales, les affaires juridiques et l'Assemblée de l'Organisation de l'énergie atomique. Selon cette autorité iranienne, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique rencontrera un groupe de hauts fonctionnaires de la République islamique d'Iran au cours de ce déplacement de 2 jours à Téhéran, avec qui il s'entretiendra sur les sujets liés à la coopération Iran-IOA. Plus tôt, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'au Téhéran et l'Agence internationale de l'énergie atomique pourraient facilement trouver une solution technique à leurs différends si l'agence abandonnait son approche politique. Amir Abdollahian a fait ce commentaire lors d'une conférence des Nations unies sur le désarmement dans la ville suisse de Genève. Le diplomate de haut rang a également mis en garde contre toute initiative anti-iranienne du Conseil des gouverneurs de l'AIOA lors de sa prochaine réunion en mars. Il a souligné qu'au Téhéran se réservait le droit de donner une réponse appropriée à de telles mesures. Monsieur Amir Abdollahian a également évoqué les pourparlers de relance du GCPOA, plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, accusant les États-Unis d'être à l'origine de l'impasse actuelle dans ces discussions. Il a déclaré que la situation actuelle était due aux politiques et aux erreurs de calcul erronées de Washington. Pour répondre aux récentes fanfaronnades anti-iraniennes des autorités israéliennes, Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies, s'est adressé par écrit au secrétaire général des Nations unies et au président en exercice du Conseil de sécurité pour dire que les déclarations lancées le 21 février dernier par le premier ministre du régime sioniste sur l'utilisation de la force militaire contre les infrastructures vitales et les installations nucléaires pacifiques de l'Iran constitue une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies. À travers ce message, le diplomate iranien aborde les débordements du ministre israélien des Affaires militaires qui avait menacé le 17 février dernier de recourir à la force, notamment contre les infrastructures civiles et vitales iraniennes. L'ambassadeur iranien a qualifié cela de violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies, qui laissera, dit-il, des conséquences dévastatrices sur la paix et la sécurité régionale et internationale. Dans la lettre du représentant permanent de l'Iran, il a été souligné que le Conseil de sécurité de l'ONU doit assumer sa responsabilité et condamner clairement les déclarations hostiles des autorités israéliennes. En vertu du droit international et de la Charte des Nations Unies, l'Iran se réserve le droit légitime de défendre ses citoyens, ses intérêts et sa sécurité nationale et de riposter fermement à toute menace ou toute action répréhensible du régime israélien à l'endroit ou à l'heure qu'il juge nécessaire. En marge de la 52e conférence des droits de l'homme à Genève, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a abordé la question des relations du Venezuela avec la Russie et l'Iran. Dans une interview à la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Evangel Pinto, a abordé la question des rapports entre son pays et la Russie et l'Iran. Il a déclaré que le Venezuela entretenait des relations étroites avec ces deux pays et qu'il existait actuellement toute une série de projets dans les domaines de l'énergie, de l'alimentation, des technologies, de l'information et des transports. Monsieur Pinto a souligné que la Russie et l'Iran sont des alliés de longue date du Venezuela, précisant que Caracas est en contact permanent avec Moscou et Téhéran et entretient des relations très fortes avec ces deux pays, ajoutant que son pays a signé un plan d'alliance stratégique avec l'Iran pour les 20 prochaines années. Enfin, exportation d'un milliard de dollars de produits iraniens basés sur la connaissance vers les marchés internationaux. Un milliard de dollars de produits issus des activités entreprises fondées sur le savoir ont été exportés vers les marchés internationaux cette année, annonce le vice-président pour les affaires parlementaires. Sayed Mohammad Hosseini a déclaré vendredi 3 mars, lors d'une réunion avec des présidents d'universités et des membres de l'Association des académiciens de la province d'Ilam, sur la base du document de transformation du gouvernement qui a été préparé, 39 questions importantes ont été compilées et incluses dans le 7e plan de développement qui sera soumis au Parlement d'ici la fin de l'année. En outre, 12 questions ont été soulevées et 15 questions prioritaires ont été incluses. Sous le 13e gouvernement, l'Iran entretient des relations efficaces avec les pays voisins, la Russie et la Chine, l'Inde et l'Amérique du Sud, et la récente visite du président Raïsi en Chine et l'entrée en Iran dans l'Organisation de coopération de Shanghai ont abouti à de nombreuses réalisations pour le pays, de telle sorte que certains pays ont tendance à investir en Iran et des mesures ont été prises à cet effet. L'adjoint du président pour les affaires internationales a continué. Le front arrogant et certains pays de la région ne cessent d'agir avec malveillance contre la révolution islamique afin de marginaliser les réalisations nationales et étrangères de l'Iran. À cet effet, ils tentent d'éloigner le peuple des réalisations du régime avec leur vaste propagande. Tous les agissements maléfiques des ennemis visent à empêcher les progrès internes et externes de l'Iran. Et dans l'affaire de l'empoisonnement en chaîne des élèves iraniennes, le but des auteurs de son mal, des médias et des experts spécialistes en machination contre la République islamique d'Iran, est de faire passer un visage version taliban de l'Iran aujourd'hui, manière de diaboliser le 13e gouvernement et le montrer contre l'éducation des filles. Soit alors qu'une partie du corps administratif du gouvernement est dédiée aux femmes. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. s'est-il passé dans les pourparlers entre l'Iran et l'Ukraine à Oman? Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir Abdollahian, dans une partie de sa récente interview avec CNN, a de nouveau nié les allégations selon lesquelles l'Iran aurait envoyé des drones en Russie pour être utilisés dans la guerre avec l'Ukraine. Lors de cette interview, la journaliste Christiane Amanpour de CNN a montré certaines images au ministre des Affaires étrangères pour appuyer ses accusations, prétendant que ces photos sont liées aux drones iraniens pris par les Ukrainiens. Le très haut diplomate iranien, lui, a répondu que ces images n'ont rien à voir avec les drones iraniens. Nous avons pris rendez-vous avec la partie ukrainienne à Oman. Nos équipes militaires et la partie ukrainienne s'y sont retrouvées. Ils nous ont présenté des photos satellites confuses, vagues et peu claires et ont prétendu qu'il s'agissait de drones iraniens. Nos experts les ont vérifiés et ont dit que ces photos n'avaient rien à voir avec l'Iran. Depuis 4 mois, nous attendons toujours un deuxième cycle de pourparlers pour qu'ils nous présentent des documents plus clairs et plus solides. Mais la partie ukrainienne le reporte toujours, nous promettant constamment un rendez-vous dans 2 semaines, dans 1 mois. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas venus pour le deuxième cycle de négociations et la présentation de documents. Nous avons interrogé la Russie sur cette question et elle a répondu qu'elle n'avait pas utilisé de drones iraniens en Ukraine. Nous avons également dit à l'Ukraine, si vous avez des documents, soumettez-les et nous les vérifierons. Elle n'a fourni aucune documentation solide, rien que des accusations sans fondement formulées par des médias ukrainiens. J'ai envoyé des experts militaires de haut rang de mon pays à Oman. Des experts ukrainiens sont également venus et eux n'ont pas pu le prouver. Et puis, vous voulez dire, en tant que journaliste de CNN, vous voulez dire qu'il s'agit d'un drone iranien? Laissez-moi dire que ce drone appartient au régime sioniste qui a été utilisé contre le peuple ukrainien, a déploré le ministre iranien des Affaires étrangères. Cette façon de poser des questions et vos allégations sont erronées. Si l'Ukraine a des documents, pourquoi ne peut-elle pas les fournir lorsqu'elle négocie avec nos experts militaires? Ils devraient présenter les documents à la table des négociations. Nous, nous étions à la table de négociation avec eux. Pour cela, s'étonne le très haut diplomate iranien.
Bonjour à tous, bienvenue ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour est la Palestine, la situation catastrophique depuis 2023. Il semble que 2023 soit aussi cruel que 2022. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord donc le reportage que nous avons préparé pour notre débat et par la suite nous ferons venir nos deux invités. Tout de suite donc, notre reportage.
Des colons israéliens ont tué un Palestinien près de la ville cisjordanienne de Naplouse, au milieu des tensions accrues dans les territoires occupés. Sameh Aktash, 37 ans, a été tué après avoir abattu d'une balle réelle lors d'un assaut par des colons et des forces israéliennes au sud de Naplouse. Environ 400 Palestiniens ont également été blessés après que les troupes et les colons ont attaqué des parties de la ville. Ils ont bloqué les rues, jeté des pierres et incendié plusieurs maisons et véhicules palestiniens. Leur raid faisait suite aux morts de 2 Israéliens dans une colonie de Cisjordanie plus tôt dans la journée. Le régime a intensifié sa répression meurtrière contre les Palestiniens dans les territoires occupés depuis la formation d'un cabinet d'extrême droite sous le premier ministre Benjamin Netanyahou. Jusqu'à présent, 66 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie cette année. Ces derniers mois, la Cisjordanie occupée depuis 1967 par le régime sioniste, où vivent près de 3 millions de Palestiniens et près de 500 000 colons israéliens, a été régulièrement le théâtre de raids de l'armée israélienne ou d'affrontements avec des Palestiniens. Les forces armées israéliennes ont tué 150 Palestiniens en 2022, ce qui fait de cette année la plus meurtrière depuis la seconde intifada de 2005. La situation explosive en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza sous blocus risque encore de se détériorer. Les Palestiniens dénoncent l'inaction de la communauté internationale face aux crimes perpétrés par les occupants israéliens. On assiste à d'innombrables exécutions sommaires commises en toute tranquillité dans les rues et dans divers coins de la région sous forme et sous prétexte d'assaut.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Nous allons faire venir donc tout d'abord nos invités, Madame Midani, notre expert en questions géopolitiques, notamment concernant le Moyen-Orient. Bonjour Madame Midani, toujours un plaisir de vous avoir en tant qu'experte.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à toute l'équipe et à Monsieur Cornu aussi.
Merci. Donc notre deuxième invité, vous l'aurez compris, et entend Monsieur Bernard Cornu. Bonjour Monsieur Cornu, ravi de vous avoir également aujourd'hui pour l'expertise concernant la situation palestinienne.
Bonjour à vous toutes et tous.
Alors vous l'aurez compris, Madame Midani, c'est la troisième fois en une semaine, 7 jours. Trois fois une réunion sur la Palestine. Cette semaine a été extrêmement difficile pour les Palestiniens. Le reportage ne parle pas de tout ce qui s'est passé durant ces 7 jours, mais il y en a eu des choses. Est-ce que vous voulez vous-même vous faire un résumé de ces 7 jours? Je parle également notamment de ce qui s'est passé dans les prisons palestiniennes, la décision de changer la loi, de ne plus apporter d'aide sanitaire, donc d'aide médicale aux prisonniers palestiniens qui sont souvent pour 90% du temps pas jugés, ne savent pas donc quand ils vont sortir. Est-ce que vous voulez revenir donc sur ces 7 jours en Palestine?
En fait, les agressions et les escalades du pouvoir fasciste de Netanyahou se multiplient contre la population palestinienne depuis qu'elle est au pouvoir, ce gouvernement. Il n'arrête pas d'attaquer. Alors, on a vu déjà un premier massacre à Jenin, un deuxième massacre à Naplouse, un troisième massacre à Ariha, et là, dernièrement aussi, un massacre à Hawara. Ajouté à des agressions systématiques au niveau de Jérusalem, au niveau de tous les quartiers, c'est des massacres qui s'accompagnent de destruction de domiciles, des arrestations des militants et destruction de leur maison. Donc, en fait, une agression généralisée contre le peuple palestinien, aussi bien par l'armée israélienne que par les colons qui ont été armés par ordre de Netanyahou aussi, et pour lesquels il y a un discours d'agressivité et qui les pousse en fait à tuer tout Palestinien. Donc c'est pour les Israéliens, pour ces colons, tout Palestinien mort est un bon Palestinien. Donc il se déchaîne contre les Palestiniens, les civils, etc. Je voudrais rappeler un peu cet épisode, le dernier de Hawara, où les colons ont attaqué la ville, le village de Hawara, qui est dans Al-Quds, en fait, dans la banlieue de Jérusalem, et qu'ils ont brûlé les maisons. Ils ont complètement brûlé leurs maisons. Sans savoir si les gens sont à l'intérieur, à l'extérieur, une attaque et en plus ajoutée à l'encerclement de la ville par l'armée, qui a fermé aussi toutes les sorties, toutes les issues de la ville. Donc un vrai massacre qui se fait. sous la protection.
Excusez-moi, Madame Midani. Il faut le rappeler, donc 90 blessés hein, pour cette seule nuit. Comme vous l'avez indiqué, la description, ça a été incendié alors que les gens étaient à l'intérieur de leur maison, en plein milieu de la nuit, donc ils dormaient très certainement. Donc pas dans la capacité de se défendre, de voir ce qui se passait à l'extérieur de chez eux.
Tout à fait.
On rappelle également que le lendemain ou le surlendemain, enfin dans la semaine, dans les 7 jours, des Israéliens extrémistes sont venus donc célébrer ce qui s'est passé dans cette partie-là de la Palestine. Donc ça, c'est un peu la situation des 7 jours. On rappelle seulement en 7 jours, on rappelle un mort, 90 blessés et une importante partie complètement brûlée. Les Palestiniens ne peuvent pas retourner chez eux parce que leurs biens ont été détruits. Monsieur Bernard Cornu, en France, il y a eu quelques émissions. On a entendu un peu les Israéliens, enfin en tout cas les Juifs présents en Europe et ne sont pas en contradiction avec l'entité sioniste, indiquant que l'État sioniste ne pouvait plus se présenter comme étant démocratique. Est-ce que vous avez suivi ces émissions? C'est la seule fois où on a vraiment entendu parler finalement de ce qui s'est passé en Palestine durant ces 7 jours. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de ces réactions un peu toutes petites par rapport à ce qui se passe en Palestine tous les jours?
Mais c'est vrai qu'il y a en France, en Europe et aussi aux États-Unis, y compris de la part de communautés juives éduquées, d'avocats, juristes, il y a des protestations contre l'évolution du gouvernement israélien dominé par des extrémistes, des gens d'extrême droite qui forcent le gouvernement Netanyahou, qui lui est de droite, et on ne peut pas le féliciter d'avoir pris des gens de l'extrême droite. Donc ces gens en France protestent contre ce qui se passe désormais depuis 2 mois en Palestine occupée, contre les Palestiniens, des massacres répétés, des vengeances à l'initiative de colons qui sont armés, comme on l'a bien répété, et l'armée a de la peine ou même ne veut pas intervenir. Alors il y a quelques déclarations parfois de certaines autorités politiques. Maintenant, le pouvoir israélien organise sur les territoires dont il a pris l'occupation, et cela amène l'oppression, la répression, l'expulsion, et il manifeste contre la résistance, ce qu'à son tour il qualifie de terrorisme. On voit exactement ce qu'a dit le général de Gaulle, président de la République française en 1967, continue depuis maintenant des années et des décennies. On a une occupation, on a donc une résistance qui est qualifiée de terrorisme alors que c'est une résistance qui était comme la résistance en France contre le pouvoir allemand, contre l'occupation de territoire français. Et donc on a des répressions terribles. Et il faut aussi rappeler qu'il y a quelques jours, le secrétaire général des Nations Unies a répété que l'occupation était et que l'expansion des colonies était illégale. Ça n'a pas été redit très souvent, mais il a eu le courage de le dire. Il faudrait beaucoup plus qu'on le dise. Dans nos médias français, quelquefois les journalistes disent Cisjordanie occupée, quelquefois ils oublient de le mentionner. Et donc en fait, c'est cette rappel de qu'on a une situation d'occupation, une situation de résistance, et que le droit international doit s'appliquer. Comme l'ancien président français Chirac l'a dit, on doit utiliser pour mettre fin à cette occupation toutes les ressources du droit international, c'est-à-dire des résolutions chapitre 7 de menace de recours à la force pour rétablir la paix et donc obtenir l'évacuation par l'armée israélienne de tous les territoires occupés en 67 pour revenir à ce qu'on appelle la ligne verte, ce qui a été accepté en fait lors du sommet arabe de 1988.
Merci, Monsieur Bernard Cornu. Madame Midani, il y a eu un sommet entre différents partis après cette attaque meurtrière, notamment avec l'entité sioniste, également les autorités palestiniennes. Est-ce que vous voulez dire un mot sur ce sommet que la résistance a complètement refusé, indiquant que c'est pas par là que peut s'apporter la paix, c'est ne pas vers ce genre de sommet que la solution peut se trouver, Madame Midani. Donc, Madame Midani, je crois que nous l'avons perdue. Monsieur Cornu, est-ce que vous avez suivi ce sommet, donc, qu'il y a eu sans la résistance? Certains disent que c'est même pour boucler et pour paralyser la résistance, notamment la résistance à Gaza, la résistance à l'extérieur de Gaza, en Cisjordanie. Est-ce que vous avez entendu parler de ce sommet? Est-ce que vous avez suivi donc ce sommet qui s'est fait finalement sans la résistance palestinienne, sans les Palestiniens, j'ai envie de dire?
Vous parlez de la réunion à Aqaba?
Exactement.
Dimanche?
Oui, oui, oui.
Voilà, à l'initiative de l'ambassadeur américain, dont des Nations Unies, ça a réuni l'autorité palestinienne dans son fief de Ramallah avec des délégués et bien sûr aussi des services palestiniens. Israélien mandaté par le Premier ministre Netanyahou. Il était question de voir comment limiter la violence. Selon le communiqué américain, il y a eu un accord des deux parties, l'autorité palestinienne et les services israéliens, l'armée israélienne, d'éviter de recourir à la violence, de ne pas remultiplier encore les actions répressives, violentes et meurtrières en Cisjordanie occupée. Mais très tôt, dès lundi, je crois, le Premier ministre Netanyahou a démenti certains aspects, notamment l'aspect du gel des nouvelles colonies et le gel des autorisations des avant-postes de colonies qui sont très souvent autorisés pour en fait créer des faits accomplis dans ces territoires occupés.
D'accord. Et certains parlent de la présence de l'autorité palestinienne comme une trahison à la résistance. Est-ce que c'est encore une dissension au sein des Palestiniens? Certains disent que les Palestiniens sont fatigués, d'autres disent non, ils vont le résister. Est-ce que c'est un peu le fait que l'autorité palestinienne s'est présentée lors de ce sommet montre en fait une dissonance entre les Palestiniens résistants et les autres Palestiniens?
Tout à fait. Comme on sait, il y a depuis très longtemps, il n'y a pas eu d'élection démocratique en Palestine, alors qu'ils en sont capables, ils l'ont prouvé. Donc on a une dissension entre l'autorité palestinienne qui exerce son pouvoir, surtout sur la Cisjordanie occupée, et collabore avec l'autorité occupante, parce qu'elle n'a vraiment pas le choix, malheureusement, dans les situations actuelles, et les autorités de Gaza, contrôlé essentiellement par le Hamas, soutenu par d'autres pays à l'extérieur, qui n'arrivent difficilement à collaborer, même s'il y a eu des essais par l'Égypte, par d'autres parties, d'essayer de recoller les morceaux entre les différentes parties palestiniennes sous occupation. Donc le Hamas n'a pas participé à cette réunion et n'est pas d'accord pour prolonger l'accord de coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne de Ramallah et les services et l'armée israélienne.
Est-ce que ça s'explique parce que
la population, selon les sondages, la population palestinienne soutient fortement, en grande majorité, la résistance, y compris les actions armées lorsqu'il y a des abus flagrants des colons ou de l'armée israélienne.
Merci, Monsieur Cornu. Est-ce que ça s'explique aussi parce qu'on rappelle encore 2022 a été l'une des années les plus meurtrières depuis longtemps. 2023 commence extrêmement mal puisque il y a énormément d'incidents en moins de 3 mois qui ont été faits. Est-ce que cette façon de la résistance de gérer les choses, c'est aussi parce que ils sont à bout est-ce qu'on peut penser que ça va exploser parce que vraiment là ça va sous pression ce qui s'est passé cette là où des gens, des familles y vivaient, la destruction de biens, la destruction de vie également, ça devient de plus en plus important. La résistance, elle ne dit rien, mais elle se prépare. Est-ce que vous attendez une explosion en fait? Déjà que l'entité israélienne a un problème géopolitique à l'intérieur même de ses départements étatiques, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la Palestine dans les jours, voire dans les semaines qui arrivent?
Les tensions qu'il y a dans les communautés juives en France et aux États-Unis qui s'oppose à ce gouvernement extrémiste à nouveau dominé par Netanyahou, alors que lui-même est sous l'emprise d'une action légale pour des faits de corruption. Et justement, ce qui est dénoncé par les démocrates juifs aux États-Unis notamment, et certains en France aussi ou en Europe, c'est que le pouvoir Netanyahou essaye de mettre la Cour suprême, c'est-à-dire l'autorité juridique ultime, sous le contrôle du gouvernement ou de l'Assemblée, enfin de l'Assemblée, donc dominée actuellement par la coalition dirigée ou formée par Netanyahou. Donc cette action juridique, cette tentative juridique que le gouvernement Netanyahou veut essayer d'impliquer avant la fin de la session parlementaire actuelle, au moment des fêtes de Pâques, mettrait le pouvoir judiciaire sous le contrôle du pouvoir politique, ce qui est un déni de démocratie, puisqu'il est important que le pouvoir juridique soit toujours séparé du pouvoir politique et du pouvoir législatif.
Merci, Monsieur Cornu. On a récupéré Madame Midani. Alors, Madame Midani, on avait parlé donc du sommet qui a eu dimanche avec l'autorité palestinienne, l'entité sioniste, les Égyptiens et les Américains. C'est pour venir un peu sur les choses propres.
Ah, pas bas.
Voilà, exactement. Et là, j'ai envie de parler donc de ce qui s'est passé dans les prisons où on leur a supprimé la possibilité, on a dit qu'on allait leur supprimer la possibilité d'avoir recours à une aide médicale, surtout pour ceux qui sont malades, les maladies chroniques, mais pas seulement, des cancers. Les prisonniers ont indiqué qu'en fait, ils allaient commencer et débuter une grève, et cette grève, même si elle aboutirait à leur mort, c'est tout ou rien, en fait. On est en train de voir avec Monsieur Cornu, le fait que c'est vraiment explosif à l'actuel en Palestine, les Palestiniens ont connu l'année 2022 extrêmement difficile, extrêmement cruelle, extrêmement injuste, que 2023 commence extrêmement mal également. Est-ce qu'on s'attend à une explosion de la Palestine, notamment par le biais des prisonniers? On a déjà vu les choses commencer par le biais des prisonniers en Palestine, une intifada. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Midani? Et ça sera certainement nos mots de conclusion.
En fait, l'agression des Israéliens contre les prisonniers, les détenus, en fait, je ne peux pas appeler près des prisonniers parce que ce sont des détenus qui ont la seule culpabilité, je veux dire, ou le seul crime, c'est de défendre leur pays et de défendre de résister à l'occupant. Donc, en fait, ce sont des détentions sans aucune raison déjà. Et en fait, contre la légitimité d'autodéfense, d'une part. D'autre part, alors, le fait qu'ils trouvent que les détenus sont une proie facile à toute une répression de l'armée israélienne qui attaque les prisonniers, qui les tabasse systématiquement, y compris les femmes d'ailleurs et les enfants, ils les privent de tout. Et ce qui, bien sûr, fait que les détenus résistent, alors soit par des mouvements de grève de la faim, soit aussi par des mouvements de résistance civile. Alors, en représailles, les Israéliens, l'armée israélienne, les prive d'alimentation, les prive de médicaments. Et aussi, récemment, ils ont décrété et ils ont fait voter ça au Knesset, hein, de les priver de nationalité et de séjour. En fait, donc, il y a un travail de plus que fasciste, je dirais, qu'on n'ait jamais vu dans le monde, de représailles contre les détenus, ce qui est tout à fait contraire au minimum des droits de l'homme, à la Charte des Nations Unies et pour les droits des occupés sous un occupant et pour les droits des peuples à vivre, en fait, et à le droit à la résistance. En fait, tout ceci est violé systématiquement par Israël face aux détenus. Mais sans parler aussi de toutes les violences contre le peuple palestinien, même en dehors des prisons, aussi, et cette agressivité et agression systématique, et les destructions des maisons, je continue à rappeler, même les détenus libérés ou les détenus qui sont encore en prison, on va détruire leur maison, et ils vont détruire leur maison sur la tête de leur famille, ou en laissant leur famille à l'extérieur, comme ça, sans aucun domicile. Donc, en fait, c'est une agression systématique, fasciste, contre le peuple palestinien, qui résiste par toutes ses forces, et qui est aussi, objet de toutes les manigances politiques, du style de cette réunion à Aqaba, qui veut, en fait, apaiser le mouvement, mais apaiser pour l'État israélien et occupant. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, Yedioth Ahronot, qui est un journal israélien, qui dit que l'État d'Israël est encerclé, il est dans un guet-apens, parce qu'ils ne peuvent plus se défendre et parce que l'autorité palestinienne n'a plus pouvoir sur les Palestiniens. Et fort heureusement, donc maintenant, la base palestinienne, le peuple palestinien, n'entend plus l'autorité palestinienne qui voulait apaiser et qui est de mèche aussi et qui fait de la coordination sécuritaire avec l'armée israélienne. Bon, maintenant, elle n'a plus pouvoir et elle n'a qu'à se plier à la volonté du peuple palestinien pour aller dans le sens de cette révolution.
Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons conclure notre débat, donc l'émission que nous avons à l'heure actuelle. Nous remercions donc nos deux experts, M. Bernard Cornu, écrivain et expert géopolitique, et Mme Midani, également expert géopolitique, notamment au Moyen-Orient et en sa propre chaîne également YouTube. Je vous remercie, nos chers experts, de participer à nos débats et de donner votre point de vue sur les sujets. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. Je vous dis donc à un prochain jour pour un autre sujet du débat, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran, dans les locaux de Presse TV. Au revoir.
Des millions de personnes ont pris part à une manifestation dans la capitale allemande contre l'approvisionnement en armes de l'Ukraine au lendemain du premier anniversaire du conflit militaire russo-ukrainien. Également à Londres, diverses couches de la population sont descendues dans la rue pour protester contre les politiques bellicistes de l'OTAN, considérées comme la principale raison du déclenchement et de la prolongation de la guerre en Ukraine. Nous avons analysé cette situation avec Xavier Dupré, économiste.
Oui, effectivement, des manifestations sont prévues aux quatre coins de l'Europe en opposition à la guerre en Ukraine. Alors, ces manifestations sont organisées par de vieilles organisations pacifistes qui ont retrouvé une nouvelle jeunesse suite à l'éclatement de ce conflit. Elles n'avaient jamais quitté la scène politique non plus, hein. Je me rappelle qu'elles avaient quand même connu un regain d'activité, tout au moins en Belgique en tout cas, un regain d'activité particulièrement intéressant au moment de la deuxième guerre du Golfe, donc il y a de cela une petite vingtaine d'années. Donc effectivement, on est confronté à cela. Je crois qu'il faut vraiment se rendre compte que... ces manifestations ont parfois été annoncées depuis quelques semaines et on a vu, par exemple ici à Bruxelles, la veille, une manifestation qui, au contraire, exigeait que l'aide militaire au gouvernement ukrainien soit intensifiée dans les mois qui viennent. Cette manifestation qui s'est déroulée hier et qui était quelque part une espèce de contre-manifestation aurait rassemblé entre 7 et 10 000 personnes. Donc aujourd'hui, nous verrons quelle est la capacité de mobilisation du mouvement pacifiste en Belgique. En tout état de cause, il y a un sursaut de la société civile qui s'empare aujourd'hui de la question de la paix. Pendant très longtemps, je dirais jusqu'à ce printemps en fait, hein, la question a surtout été abordée, la question du conflit en Ukraine a été abordée par les populations sur un mode d'abord de la surprise, puisqu'il y a quand même des journaux très sérieux qui titraient encore, nous étions à la veille du conflit, que celui-ci n'aurait pas lieu. Donc il y a eu le moment de surprise, puis ensuite il y a eu l'augmentation effrénée et très inquiétante des prix du gaz. Et donc évidemment à ce moment-là, les populations en Europe occidentale ont surtout analyser le conflit du point de vue de leurs intérêts qui venaient d'être déstabilisés de manière très brutale, leurs intérêts économiques bien compris d'ailleurs. Je veux dire, bon, il faut quand même se rendre compte que certains contrats variables ici en Belgique comportaient le paiement équivalait en fait au paiement annuel pour du gaz et de l'électricité. C'était presque demander à un ménage de s'acquitter du prix de deux montres de luxe. Donc voilà, c'est vraiment, ça peut se comprendre, je veux dire, ça a du sens en tout cas, économiquement et socialement, ça avait du sens. Aujourd'hui, bah, on voit quand même que les prix du gaz ont légèrement baissé. Cela est exclusivement dû, en tout cas en très grande partie dû, à un hiver extrêmement clément en Europe. Ce qui n'annonce pas nécessairement une suite favorable, parce que c'est lié à un réchauffement climatique qui aura des conséquences, mais en tout cas, à très court terme, c'est très positif. Et donc, il y a une espèce de... Puisque les soucis matériels sont écartés pour un temps, eh bien, il y a une repolitisation dans la perception de la société civile en Europe occidentale, une repolitisation du décodage des termes de ce conflit. D'où la multiplication de manifestations qui comportent un véritable... programme qui répond à un véritable programme politique, puisqu'elle vraiment ces manifestations ne sont pas seulement des si vous voulez une espèce de comment dire de sentimentalisme public, c'est pas du tout ça, c'est pas on souhaiterait la paix mais de manière très abstraite, non, on parle ici de suspendre certaines livraisons d'armes à l'Ukraine, on parle d'organiser une grande conférence sur la paix et la sécurité en Europe qui associerait la Russie, on demande un cessez-le-feu aux deux belligérants, enfin bref, finalement c'est un véritable quelque part c'est peut-être là la constitution, au moins dans certains pays, d'un parti de la paix. Donc vraiment, c'est une vraie politisation des termes du débat, et avec un effort même d'éducation populaire, des gens de conditions très simples, de conditions modestes, n'ayant pas toujours un capital scolaire très développé, aujourd'hui connaissent, en tout cas en partie, en bonne partie, de manière très cohérente en tout cas, les tenants et les aboutissants de ce conflit en dehors des perspectives économiques liées à leur pouvoir d'achat. Donc vraiment, on assiste là peut-être à quelque chose qui serait l'équivalent en Europe occidentale de ce qui a été, pour prendre des exemples du passé, mais ce ne sont que des comparaisons, les comparaisons n'est pas raison, mais on est peut-être en train d'assister aujourd'hui en Europe occidentale à la naissance d'un mouvement de contestation de la guerre qui serait comparable au mouvement de contestation de la guerre au Vietnam dans les années 60-70, dans les années 1960-1970 aux États-Unis. Donc c'est voilà, tout va dépendre un peu du succès de foule. Je note toutefois que fait tous les pays européens, il y a véritablement une coordination pacifiste à travers toute l'Europe occidentale, ce qui est moins le cas des manifestations d'ailleurs de soutien au gouvernement ukrainien, puisque ces manifestations sont le plus souvent organisées par des minorités, par les réfugiés, une partie des réfugiés ukrainiens chez nous. Donc il n'y a pas véritablement de coordination internationale. Ici, il y en a une. Peut-être sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un parti de la paix. Et de surcroît, je crois quand même qu'il faut aussi mentionner une autre angoisse qui est là. C'est que, oui, nous avons eu un hiver extrêmement doux. Et donc, nous échappons pour l'instant aux conséquences économiques, j'ose le mot, tragiques, d'une crise énergétique majeure en Europe occidentale, mais rien ne garantit que nous n'aurons pas un hiver très dur dans un an. Bon, c'est pas la probabilité la plus évidente, parce que c'est vrai qu'il existe une tendance de fond au réchauffement climatique, mais rien n'exclut un ou deux mois d'hiver très dur. Vous voyez bien qu'en ce moment, par exemple, dans le sud de la Californie, il y a des chutes de neige. Donc, il y a des perturbations. Plutôt que de parler d'ailleurs de réchauffement climatique, il vaudrait mieux parler de perturbations climatiques structurelles. Il se pourrait très très bien qu'on se retrouve avec de la neige, peut-être, que sais-je, à l'automne prochain. Le climat est devenu très très difficile à prévoir, très imprévisible. Et donc ça aussi, ça fait partie des angoisses de la population, des angoisses des acteurs économiques. Si j'ajoute à ça le fait qu'aujourd'hui, il y a l'émergence d'un peut-être parti de la paix, en tout cas d'un courant de société qui est très favorable à la paix et qui est très très éloigné, même en opposition avec l'agenda de l'OTAN, eh bien oui, ça donne un climat de contestation. Si on ajoute en plus à cela des phénomènes type gilets jaunes, de type mouvement contre des régressions sociales dans le domaine des retraites en France, dans le domaine des soins de santé dans d'autres pays, oui, ça donne, on a quand même l'impression très clairement que l'Europe occidentale aujourd'hui est en proie à un mouvement social contestataire de grande ampleur.
Thank you.